mystérieuse épidémie.
Mais l'infection se répandant et le chaos se généralisant, il ne suffisait plus d'avoir de bonnes jambes.
Allez, chacun rentre chez soi.
À partir de maintenant, c'est simple. Ça va être chacun chez soi.
On est bien chez soi, quand même.
C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça.
La seule maladie que t'as jamais eue, c'était des poux.
Alors vous croyez, madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? À peu près comme le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre.
Chronique des confins.
La reprise d'activité, la liberté de circuler, de se réunir en famille ou bien de se retrouver entre amis, ces repères du quotidien sont aujourd'hui des événements presque extraordinaires. Et voir la fin de cette épreuve nous rassure. Mais vous les voyez, vous, ces difficultés que l'on perçoit au loin ? Ce tournant économique et social sera grave et dommageable pour bon nombre d'entre nous. Notre société a dû lever le voile du déni sur nos inégalités, sur la violence conjugale, la mondialisation à outrance et la fameuse valeur du travail. C'est pourtant la préservation de nos libertés individuelles et collectives dont il s'agit. Mais au détriment de qui ? On en oublierait presque la date du 11 mai 2020 comme étant celle d'un nouveau départ. Les maires, les agents de l'État et les agents des collectivités locales participent en coulisses à l'aménagement de notre quotidien pour vivre avec le Covid-19. Les institutions publiques accompagnent cette reprise et pour mieux comprendre comment cette crise sera gérée au niveau local, Timbre FM donne la parole aux protagonistes de l'actualité. Aujourd'hui, la parole est donnée à Jean-Luc Pléhère, maire de Guerre et président de Oust à Brocéliande Communauté.
Bonjour, donc Jean-Luc Pléhère, je suis maire de Guerre et président de la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande. Donc je ne suis plus en activité aujourd'hui, j'ai exercé longtemps au conseil général du Vienne et j'ai fini comme secrétaire général des services. Et puis ensuite j'ai travaillé dans le secteur médico-social, avant aussi d'ailleurs, dans le monde du travail protégé et puis dans le monde de l'hébergement des personnes handicapées à Rennes.
Très bien, merci Monsieur Blair d'être avec nous sur l'antenne de Timbre FM. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. L'État donc semble passer le relais, ou plutôt la patate chaude de la gestion de cette crise sanitaire aux acteurs et aux élus locaux. On observe aussi les critiques faites par la population quant à la gestion de cette crise, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on constate que la politique gouvernementale est assez critiquée. Il y a eu pour cela un sondage réalisé le 29 avril dernier, suite au discours du Premier ministre sur les mesures de déconfinement, qui nous indiquait que ce discours d'Édouard Philippe face aux députés avait convaincu 47% des Français. Et ce même sondage nous indiquait aussi que 66% des personnes interrogées estimaient que le gouvernement n'avait pas été à la hauteur dans la gestion de cette crise. Alors voilà, vous, en tant qu'élu local, et plus particulièrement en tant que maire, est-ce que votre avis se rapproche de ceux des Français interrogés dans ce sondage ?
Moi, je pense que c'est très difficile d'être aux affaires en ce moment. C'est plus facile de dire « il faudrait, y a qu'à ». Ceci étant dit, je pense que le gouvernement est un petit peu dans l'imprécision, surtout dans l'imprévision. Il n'a pas suffisamment, à mon avis, anticipé ou pris la mesure de la pandémie qui allait arriver. Maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Et il faut que on soit tous les uns et les autres solidaires et que nous, les collectivités, nous jouions le jeu, même si... Moi, je déplore, par exemple, qu'on n'ait pas eu des masques en temps et en heure, que maintenant on nous dise qu'il y en a à disposition du grand public, c'est indispensable dans les supermarchés, mais qu'à l'inverse, des professionnels de santé ont laissé leur vie parce qu'eux-mêmes ne disposaient pas de mesures de protection. Ça frise un peu presque le scandale, quand même, cette affaire. Donc voilà.
Il y a eu une mise en danger de la population et des professionnels de santé.
Ouais, je pense que oui, les professionnels de santé surtout qui étaient en première ligne, qui ont pris des risques considérables pour eux, pour leur entourage, et je pense que là, l'effet de dire il y a X millions de masques qui vont être diffusés dans les grandes surfaces, alors que les professionnels de santé, moi j'ai écouté leurs représentants, ils n'ont pas tort, étaient un peu outrés, révoltés, alors que eux n'en disposaient pas, alors qu'ils participent vraiment à la lutte contre cette pandémie. Donc c'est vrai que ça, c'est déplorable. Sur le reste, je pense qu'ils marchent à pas feutrés parce qu'ils savent pas à quoi s'en tenir. Mais faut pas non plus, à force de tenir peut-être des discours imprécis, mettre les gens dans l'angoisse et dans la psychose générale, même si il faut redoubler de prudence et il faudra encore plus redoubler de prudence dans la semaine prochaine, s'il y a des confinements, puisque ça va être confirmé le 7 mai, il en va de la responsabilité de chacun et de la santé de tous et de chacun. Donc il faut vraiment ne pas lâcher la bride.
L'information est omniprésente hein, dans notre quotidien actuellement et les maires commencent à être bien visibles dans les médias. L'État semble attendre beaucoup de vous et en ce sens, vous avez rédigé une lettre destinée à vos administrés le 22 avril dernier. Alors avant de nous en parler de cette lettre, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous, selon vous, la fonction d'un maire dans une situation aussi exceptionnelle? Quelle est cette fonction?
Eh ben moi, la fonction d'un maire, c'est de protéger au maximum la population et avec les moyens dont il dispose, d'autant qu'il a fallu être assez réactif, faire en sorte que les gens les plus vulnérables soient les mieux protégés. C'est pourquoi moi, j'ai proposé que, disposant d'un stock de masques qu'on a commandé assez tôt, fin mars, on le mette à disposition, non pas de manière discriminante à telle ou telle catégorie, mais via les professionnels de santé, qui sont à même de juger qui, pour se protéger, doit en disposer, non pas pour favoriser les sorties des uns et des autres, mais pour faire en sorte que la protection soit maximum. Je m'aperçois aussi aujourd'hui que l'État s'appuie beaucoup sur les maires, sur les collectivités en général, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et nous, on travaille de concert entre la communauté de communes, les communes, la région aussi, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, avec qui on a monté un fonds d'aide pour les entreprises.
Et comment le travail de coordination justement entre, par exemple, la préfecture du Morbihan et les maires de villes et villages ruraux se met-elle en place?
La préfecture du Morbihan est très en avant sur cette opération. Le préfet et ses principaux collaborateurs sont très présents, très à l'écoute. Et donc, on a des contacts réguliers ou thématiques ou généraux. Nous, les présidents de PCI, avec le préfet, par conférence audio, on a dû en avoir une, deux, trois. Et aussi les maires récemment, sur des problèmes d'ordre général, sur le déconfinement, puis on en a une par exemple sur les écoles, la rentrée des écoles et l'après-midi sur différents ateliers qui ont été mis en place par thème par la préfecture qui est très disponible et dont je salue la collaboration avec nous.
Mmh. On va reparler des écoles tout à l'heure qui est un peu un sujet plus que d'actualité, mais on revient un petit peu à cette lettre là que vous avez rédigée auprès de vos administrés. C'était quoi l'objectif pour vous en écrivant cette lettre?
L'objectif, c'était d'être le plus transparent possible avec les moyens dont on disposait, les informer qu'on était à la tâche et à pied d'œuvre et qu'on faisait le maximum. Moi, je suis pour, dans ces moments, communiquer, oui, vis-à-vis de la population. On n'est pas là pour faire de la com, c'est pas le moment. Je pense qu'on a à travailler sur le fond de manière humble et discrète et faire en sorte qu'on essaie de protéger le mieux possible nos concitoyens. Voilà, et en lien avec les professionnels de santé, en lien avec les bénévoles, en lien avec les professionnels aussi de l'agroalimentaire et de l'alimentaire qui font un travail remarquable. Si on peut consommer aujourd'hui et manger, c'est bien parce que les magasins sont ouverts.
Et vous pensez que du coup votre communication à vous, en tout cas, elle est complémentaire à cette information quotidienne que nous recevons de la part du gouvernement?
Oui, elle est quotidienne, elle est complémentaire et elle essaie d'être au plus près des préoccupations des gens. Leur expliquer que l'activité des services municipaux se poursuit comme celle des services communautaires. Il y avait une permanence, si je puis dire, téléphonique. Il y a des collaborateurs qui travaillent tous ou ceux qui peuvent en télétravail. Donc il y avait cet aspect qu'il y a la continuité donc de l'activité municipale et qu'on fait en sorte que tout se passe le mieux possible et qu'on est à disposition permanente, jour et nuit d'ailleurs.
Tout le monde appréhende le déconfinement, notamment sur le défi économique et les grandes difficultés sociales qui nous attendent. Comment mesurer l'impact de cette crise sur la vie économique de notre territoire?
Au sens large, mon travail aussi avec les organismes consulaires. Je proposais là ce matin aux collaborateurs de la communauté qu'on envoie un questionnaire à l'ensemble des entreprises du territoire d'Oust-à-Brocéliande afin de savoir quelles difficultés ils ont rencontrées, dans quel secteur ils sont, est-ce qu'il y a eu du chômage partiel? Quelles sont leurs attentes? Comment on peut les aider? L'impact, il y a un impact national puisqu'il y a une augmentation considérable, plus de 7%, 250 000 chômeurs en plus là. Donc il faut qu'on empêche qu'il y ait des plans sociaux, qu'il y ait du chômage et que l'activité reprenne vite. Et c'est pourquoi je fais le lien avec ce qu'on a mis en œuvre avec la région en complément des aides et des possibilités d'aide de l'État. On a mis en place un fonds qu'on appelle Covid Résistance Bretagne, où il y a une contribution de la communauté. C'est une contribution de 6 euros par habitant, 2 euros de la communauté, 2 euros de la région et 2 euros de la Banque des Territoires. Donc, on va injecter 26 millions d'euros pour aider les petites entreprises dans le cadre d'une avance remboursable à taux nul, avec un différé de remboursement de 18 mois, où on pourra apporter une aide en fonction de critères qui restent encore à affiner, une aide de 3 500 à 30 000 euros pour les entreprises qui ont besoin de trésorerie pour faire repartir l'activité et surtout préserver l'emploi.
Ce dispositif sera disponible à partir de quand ?
Normalement, il est opérationnel à partir de cette semaine et le fonds doit fonctionner jusque, je crois que c'est fin septembre ou fin octobre 2020 et les dossiers pourront être déposés soit auprès des EPCI, soit auprès de la région directement qui les instruira. On a aussi différé les loyers qu'on perçoit pour des entreprises qui sont accueillies dans des bâtiments de la communauté. Moi, je solliciterai éventuellement aussi auprès de mes collègues quand on réunira le prochain conseil communautaire que peut-être on supprime ces loyers. Ce sera à discuter parce que il faut qu'on fasse un effort à situation exceptionnelle, proposition et dispositif exceptionnel.
Concernant les écoles alors et la cité scolaire de Brocéliande, là je reparle au maire de Guerre. Comment vous avez appréhendé en fait cette reprise de l'école ?
Cette reprise de l'école, elle m'inquiète parce que il faut assumer ses responsabilités, qu'on est maire, c'est vrai. Il y a quand même une responsabilité sanitaire importante. Moi, je serai très, très prudent de façon à ce que le maximum de garanties soit apporté. Donc, on travaille. Moi, j'ai rencontré par conférence tous les directeurs privés publics d'école de la commune. On discute. On a un point demain avec le préfet à la suite des dispositions qui ont été prises par l'académie. Simplement, il y a eu un document de 60 pages qui est un digeste tout possible. On ne pourra pas satisfaire toutes les demandes qui sont faites. Moi, on essaiera de faire le maximum, mais c'est vraiment une crainte. Parce que est-ce qu'il fallait pas attendre? Je comprends que des familles aussi, que les enfants, moi j'ai des petits-enfants aussi, ils sont confinés, c'est dur, mais comment vont-ils se comporter à l'école? Ils pourront pas ne pas parler à leurs copains, ne pas les toucher. Je disais qu'il fallait, après chaque intervention auprès de jouets ou de d'outils pédagogiques, les nettoyer, mais enfin ça va être très très difficile, hein. Très difficile.
Vous seriez pour un report en fait de cette reprise de l'école, si je comprends bien.
Moi j'ai on va essayer de mettre en œuvre avec les directeurs d'école, avec les parents qu'on va aussi associer à cette démarche. On attend un peu les dispositions de demain matin du préfet, ce qu'il va nous dire. On se voit avec les directeurs. Je crois que c'est mercredi matin. On se voit, on se téléphone par conférence audio. Et j'ai demandé à ce que les parents d'élèves soient associés pour que de concert, on essaie de trouver la meilleure solution possible. Si c'est le 12, c'est bien. Si on n'est pas prêt le 12, ce sera le 13. Et puis, selon des dispositifs alternatifs, hein, tout le monde ne viendra pas à l'école en même temps. Il faut respecter des règles de distanciation. Il y a à gérer aussi la restauration, etc., etc. Enfin, c'est compliqué. Mmh.
Combien d'élèves sont concernés sur la ville de Guerre ?
Sur la commune de Guerre, on a à peu près un peu plus de 900 élèves sur 4 écoles, 2 écoles privées, 2 écoles publiques. Donc, on est plus présents parce que les bâtiments des écoles publics nous appartiennent, mais le maire est aussi chargé de la sécurité au sens large et je m'assurerai que tout fonctionne bien dans les différentes écoles, qu'elles soient publiques ou privées.
Ça met encore un frein à la reprise du travail aussi pour les parents, on imagine. Si 900 élèves ne peuvent pas aller à l'école...
Il faut satisfaire, c'est vrai, à la reprise de l'activité économique, mais il faut essayer de concilier l'économique et pour le coup, et le social. Il y a effectivement des gens qui ont besoin de travailler, mais là aussi, en fonction des capacités d'accueil qui sont limitées, il faudra qu'on privilégie des publics prioritaires. Les personnels soignants, les enfants des personnels soignants, les enfants des collectivités, les familles monoparentales, ceux qui ne peuvent pas non plus exercer le télétravail. Il va falloir. Donc, on ne sait pas encore pour la cité scolaire. Le collège, c'est un peu plus tard. Le lycée, ce sera sans doute qu'à la rentrée, à mon avis. Est-ce qu'il faut prendre autant de risques au-delà de ce que je dis sur le plan social, ce que je comprends, sur le fait que des élèves confinés soient un peu en difficulté parce que laissés pour compte un petit peu et puis ne suivant pas le cursus comme d'habitude, c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il faut prendre tant de risques que ça ou plutôt différer à un mois après ?
On va parler, pour terminer cet entretien, du maillon économique qui, quand même, perdure et continue de faire le lien entre les gens. On va bien sûr parler de la culture et de la vie locale. On constate qu'il y a de nombreux temps forts culturels, des festivals, des événements festifs qui sont organisés par les associations, qui vont être annulés, purement et simplement, hein, pour une grande majorité d'entre elles. Économiquement, on sait que ces acteurs culturels, que ce soit des artistes, des associations, des intermittents, sont déjà assez précarisés, notamment en milieu rural. L'aspect saisonnier des activités culturelles ajoute un danger majeur pour ces structures, tant en termes de financement que pour les emplois qui en dépendent. Comment sauver ce qui pourra l'être selon vous ?
Je ne sais pas. De toute façon, on a dit, on a eu contact avec différentes. Vous avez vu que la Madone des Motards était annulée. On a annulé Guerre en Fête. Il y a d'autres manifestations. Je pense aux Jumeaux, à la Fête des Jumeaux. Je pense au motocross à Glénac. Le festival photo, c'est un peu différent parce que. Il y a des flux, hein, c'est pas une masse de personnes qui arrivent toutes en même temps à une manifestation, ça peut être étalé dans le temps. Et donc, ça pourra, par exemple, je prends le festival photo qui pourra se dérouler si il y a les bars et les restaurants d'ouvert, parce qu'effectivement, ça injecte aussi de l'argent pour les commerçants et Dieu sait s'ils en auront besoin lors de la reprise. Sur le reste, on est à disposition. Nous, on leur a dit, à ceux qui avaient déjà engagé des fonds, qu'on examinerait chaque situation en particulier. On a gelé le versement des subventions, même si elles ont été votées. Mais on est à la disposition des uns et des autres pour examiner les différentes situations et on est à leur écoute. Il y a aussi, me semble-t-il, un fonds d'aide qui existe pour certains personnels ou intermittents du spectacle pour faire court. Donc, on a rempli nous, des attestations comme quoi on n'avait pas organisé les manifestations et qu'il fallait qu'ils s'adressent aussi à ces organismes en particulier. Bon, mais bon, je sais que ça va impacter vraiment notre territoire, puisque à la fois, c'est un territoire à vocation touristique, avec le bord de mer, mais aussi l'intérieur, tous les festivals. Donc certains sont reportés, mais ils disent d'ailleurs, beaucoup disent non pas annulés, mais reportés à l'année prochaine. C'est dommage, mais c'est un principe de précaution élémentaire.
On a vu que, par exemple, Angela Merkel en Allemagne avait attribué un fonds conséquent pour soutenir la culture. Est-ce que vous pensez qu'en France, ce serait possible, ça, aujourd'hui ?
Ce serait sans doute possible en France. C'est au ministère de la Culture de s'y pencher. Nous, on va regarder aussi de près. Ça peut être l'économie sociale et solidaire. Ça va aussi, c'est l'économie classique, l'agriculture. Mais c'est aussi la culture, le tourisme chez nous. C'est important. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Moi, je suis inquiet. Il faut qu'on évite des liquidations dans ce domaine, mais aussi dans le monde économique classique. Il y a des entreprises que je connais qui se sont installées il y a pas longtemps, qui n'ont pas pu bénéficier d'un fonds d'aide d'État parce qu'ils n'avaient pas généré de chiffre d'affaires suffisant. Donc, il faudra qu'on soit extrêmement vigilant et à l'écoute, et on le sera. Je peux vous l'assurer, parce que ça fait partie aussi de la dynamique locale. Dans tous les domaines, y compris dans le domaine culturel.
Eh bien écoutez, est-ce que vous avez un dernier message à passer aux auditeurs et auditrices de Timbre FM ?
Mon message est un message d'espoir. Ça va durer, il faut être patient, il faut être prudent. Moi je trouve qu'il y a eu un certain relâchement ces dernières semaines, je pense un petit peu, là, parce que les gens ont envie de sortir, ils veulent. Mais il faut vraiment qu'on soit discipliné, responsable, citoyen, et faire en sorte d'être encore un peu patient, surtout que tout le monde ne se relâche pas à partir du 11 mai et qu'on reste encore vraiment, vraiment prudent si on veut éviter le pire.
Très bien, Jean-Luc Blair, maire de la commune de Guerre et président de la comité de communes Oust-Abrocédan Communauté. On vous remercie pour cette interview en espérant se revoir très bientôt sur les événements culturels et festifs du territoire.
Et en bonne santé. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Mystérieuse épidémie.
Mais l'infection se répandant et le chaos se généralisant, il ne suffisait plus d'avoir de bonnes jambes.
Allez, chacun rentre chez soi.
À partir de maintenant, c'est simple. Ça va être chacun chez soi.
On est bien chez soi quand même.
C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça.
La seule maladie que t'aies jamais eue, c'était des poux.
Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale ? À peu près comme le gars champêtre peut combattre un tremblement de terre.
Chronique des confins.